Bonjour et bienvenue, je suis Romain Mudrac, journaliste, et vous écoutez un podcast proposé par l'Institut Balanites, l'organisme entièrement tourné vers la promotion des recherches scientifiques liées à la Grande Muraille Verte. Ce podcast s'intitule « Observations scientifiques, Grande Muraille Verte et diffusion des connaissances en matière de biodiversité, comment renouveler les processus de valorisation ?» On va commencer par faire le point sur les études en cours, comment observe-t-on la biodiversité aujourd'hui ? Est-ce que c'est un enjeu réellement ? Et puis on va se demander si la question de la reforestation et de la préservation de la biodiversité mobilise toujours les foules dans un monde qu'on dit individualiste. On entend bien le message, mais est-il vraiment efficace ? Est-ce que tout cela nous dépasse finalement ? Faut-il orienter la valorisation et la communication de la Grande Muraille Verte vers d'autres axes, peut-être davantage tournés vers l'avenir de l'humanité, ou au risque de retomber dans des excès peut-être anthropocentristes ? Pour en parler, nous avons autour de la table Sekou Nadiata, directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte, Frédéric-Jeanne Richard, directrice de recherche à l'INRAE, biologiste spécialiste du comportement des abeilles, Godou Tchoukou, directeur de l'Agence tchadienne de la Grande Muraille Verte, Priscilla Dubose, co-directrice de l'Observatoire Homme-Milieu International Tessé-Kéré, Doyle McKay, professeur émérite à l'Université de Montpellier. Et pour poser le débat, je laisse la parole pour commencer à Gilles Butch, président de l'Institut Balanites.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je vais commencer par une première question sur qu'est-ce que c'est que cette biodiversité. Je m'adresse à Doyle McKay pour nous répondre.
Bon, qu'est-ce que la biodiversité ? J'ai combien de temps ? C'est la diversité d'espèces de tous les groupes d'organismes, les plantes, les animaux, les champignons, les micro-organismes et les humains. Ce n'est pas simplement les espèces, c'est surtout les interactions qui lient tous ces organismes dans un réseau. Ce sont les interactions qui font tourner les écosystèmes et qui fournissent les bénéfices, directement ou indirectement, aux humains. Chacune de ces espèces dans un écosystème a une biologie différente des autres, parfois un peu différente, parfois très différente, ce qui fait que chaque espèce joue un rôle plus ou moins particulier. Si une espèce disparaît, si c'est une espèce qui fait quelque chose que les autres espèces ne peuvent pas faire, l'écosystème sera affaibli et les services fournis seront diminués. Les interactions, car une espèce seule ne peut rien faire, mais ensemble, les différentes espèces peuvent tout faire. Les insectes pollinisent les fleurs et les plantes, assurant la reproduction, la régénération et la production des fruits que nous mangeons. Les oiseaux et les mammifères disséminent les graines et contribuent aux mêmes fonctions et services. Et essayez d'imaginer une savane africaine sans les bousiers. Le sol serait entièrement couvert d'excréments de bétail. Ce n'est pas beau et ce n'est pas bon pour l'écosystème. Les bousiers assurent, avec la collaboration des micro-organismes, la décomposition de la matière organique, le recyclage des nutriments et le stockage de carbone dans le sol. Et la biodiversité commence avec nous. Un humain n'est pas un organisme. Chacun de nous est un écosystème. Dans un corps humain, le nombre de cellules bactériennes dépasse largement le nombre de cellules humaines. Si un corps humain était une démocratie, ce sont les bactéries qui gagneraient les élections. Et le nombre de gènes bactériens dépasse le nombre de gènes humains, ajoutant énormément à nos capacités métaboliques. Nous serons perdus sans ces espèces associées. Et le même constat vaut au centuple pour les autres écosystèmes, comme une savane sahélienne dans le Ferlo. Les activités humaines souvent diminuent la biodiversité. On entend parler tous les jours. Mais on peut aussi gérer nos activités de façon à maintenir la biodiversité. Les humains ont aussi créé la biodiversité, par exemple, les différentes variétés de plantes et d'animaux domestiqués. La biodiversité comprend donc aussi la diversité culturelle, la diversité des pratiques qui façonnent nos interactions positives et négatives avec les autres espèces.
J'aurais demandé à Sekou Nadiata maintenant comment la biodiversité joue un rôle dans le projet de la Grande Muraille Verte.
Merci beaucoup, Gilles Buss. Je voudrais tout d'abord, à la suite de l'intervention du collègue, confirmer que la diversité biologique joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre de tout écosystème. Lorsque nous sommes dans la Grande Muraille Verte au Sénégal, c'est la zone agro-sylvopastorale. Donc dans cette zone, l'activité principale, c'est l'élevage. Et du coup, il a parlé d'interactions, les interactions qu'il y a entre la strate herbacée, la strate ligneuse, qui fournissent du fourrage pour le bétail, et les animaux constituent un élément qui joue en faveur de l'équilibre de cet écosystème-là. Si le bétail tire profit du fourrage herbacé ou aérien, c'est-à-dire ligneux, en revanche, les animaux contribuent à renouveler ou à maintenir le taux de fertilité du sol. Et c'est ce taux de fertilité-là qui va permettre un renouvellement ou le maintien du tapis herbacé. Mais ça, c'est ce que nous voyons. Il se passe également un ensemble, une diversité d'interactions et d'organismes dans le sol que nous ne voyons pas. Et cela maintient le sol en vitalité pour pouvoir continuer à fournir aux êtres vivants les éléments nutritifs, particulièrement les plantes, les éléments nutritifs dont on a besoin. Et dans cet écosystème de la Grande Mira Verte, nous avons également un élément extrêmement important. Dans cette zone, l'un des facteurs limitants, pour ne pas dire le facteur limitant, c'est la disponibilité de l'eau. Parce qu'il y pleut très rare et les quelques mares qui retiennent l'eau ne le font que pendant un certain nombre de temps. Et alors, il devient un problème. Et c'est ce qui explique, quelque part, la transhumance qu'on observe au niveau de cette zone-là. Et quand on dit transhumance, on fait allusion à la mobilité. Mobilité des communautés, mais mobilité également des populations. Et cette mobilité va entraîner des interactions entre différentes communautés et cela va permettre l'échange entre ces communautés de connaissances. Connaissances de façon générale, mais connaissances également sur comment préserver cette biodiversité. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à votre première question. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Une question maintenant à Freddy Jeanne Richard. Les insectes sont bien connus de l'homme pour leurs aspects positifs, les abeilles bien sûr, qui amènent du miel, les aspects négatifs avec les moustiques qui apportent un certain nombre de maladies. Et je voudrais vous demander comment justement les insectes s'interfèrent dans la biodiversité.
Bonjour, merci pour cette question. Les insectes sont, comme toutes les espèces, sont à la clé en fait des interactions et ils sont souvent à la base de la chaîne alimentaire. Donc ils vont avoir un rôle essentiel sur toutes les autres espèces qui vont être présentes. Et puis les insectes, ils sont très nombreux. Donc il faut imaginer aussi un petit peu comme si c'était plein de petites mains qui faisaient ces services. Et mieux comprendre l'importance des insectes, comme vous l'avez dit Gilles, il y a ceux qui ont un effet positif et négatif. Donc dans le cas par exemple de la Grande Muraille Verte, ça peut être essayer de trouver des habitats favorables ou de favoriser la multiplication des insectes qui auront un rôle bénéfique. Donc par exemple de certaines espèces pollinisatrices, de certains bousiers par exemple, ou de fourmis qui pourraient favoriser la germination de certaines plantes. Et ça du coup éviterait eh bien, de devoir nous planter tout le temps. Parce qu'on parle de nature, mais la nature, elle n'a pas besoin de nous. L'écosystème, normalement, il est capable de se régénérer tout seul lorsqu'il est en bonne santé et qu'il fonctionne bien. Donc restaurer un écosystème, ce n'est pas juste, et c'est déjà beaucoup, planter des arbres, mais après, c'est que ces arbres arrivent à vivre d'eux-mêmes et faire leur cycle normalement. Donc essayer de trouver quels sont les maillons éventuels du cycle qui manquent, s'il manque, ou comment favoriser le développement des espèces à la fois herbacées, végétales, et sauvages et domestiques, pour que l'écosystème retrouve eh bien, toute sa force et toute son énergie pour fonctionner tout seul.
Merci. Priscilla Dubose, vous êtes anthropologue, vous intéressez aux problèmes de santé. Comment ceci, au niveau de la Grande Muraille Verte, peut jouer en termes d'interdisciplinarité? En quoi l'interdisciplinarité est un moteur extrêmement important dans la recherche ou faire l'eau?
Merci. Alors, Je pense que Doyle McKeel le soulignait dès le début, la biodiversité, elle est aussi biologiquement humaine, mais elle est aussi culturellement humaine. Et finalement, en étudiant la biodiversité au sein de l'Observatoire au milieu international de Tesekre, on a assez vite réalisé qu'il y avait un lien fort entre cette biodiversité, on va dire des ligneux et des herbacées, et une diversité d'approches culturelles qui sont développées par les populations locales. Et c'est tout l'enjeu des projets qu'on essaie de réaliser actuellement, qui incluent une approche à la fois écologique, qui mêle l'étude des ligneux, des herbacées, des animaux, des petits rongeurs jusqu'aux mammifères, aux grands mammifères, et une approche qui prend en compte aussi les connaissances des populations locales pour voir dans quelle mesure la mise en œuvre de ces connaissances, finalement, permet de réguler justement la biodiversité des sols, des herbes, des arbres. Donc, finalement, ce n'est qu'en unissant les forces scientifiques de différentes disciplines qu'on arrive réellement à avoir une approche, comme on dit, socio-écosystémique, quoi, hein, finalement, qui prend en compte vraiment de manière holistique l'ensemble des déterminants du maintien de cette biodiversité et qui permettrait, pourquoi pas, on l'espère, à un moment, peut-être, d'arriver à une résilience idéale de ces socio-écosystèmes qui donc sont habités, continueront à l'être et on l'espère retrouveront très rapidement un équilibre au sein de la Grande Muraille Verte.
Kudushuku, Sekouna Diatta a parlé du problème de l'eau, c'est un vrai problème. Vous êtes le directeur de l'agence de la Grande Muraille Verte au Tchad, il y a quand même eu pas mal d'inondations et de pluies ces temps-ci. Comment ceci peut jouer, justement, sur la biodiversité ? Au Tchad, bien sûr.
Merci, M. Gilles. Moi, je rejoins aussi mon collègue pour dire que cette question de la biodiversité, je ne suis pas scientifique, hein, je suis un économiste, mais je tenterai quand même, en tant que profane et apprenant la science avec vous, de tenter de répondre à cette question qui est quasiment importante pour l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Les inondations aujourd'hui au Tchad là, sont sur 1 284 000 km². Donc la pluie arrive abondamment dans toutes les zones. D'où la biodiversité, non seulement qui est impactée par l'exploitation, le pâturage ou bien l'élevage des transhumants, mais elle commence à revenir parce que nous avons des poches des lacs qui sont quasiment importantes au Tchad. Nous avons plus de 5 lacs ou fleuves qui aujourd'hui constituent notre grande biodiversité dans notre pays. Donc, d'où, avec cette forte pluie, non seulement la prairie, même la forêt revient. Et donc, nous pensons important vraiment de retrouver une biodiversité qui contribue à l'avancée vraiment de tout, parce qu'elle est importante pour un pays comme le Tchad, un pays sahélien désertique, carrément, où aujourd'hui on remarque que par rapport à ce changement climatique, où il y a une forte pluviométrie qui arrive dans ce pays, qui regorge 5 fleuves importantes en Afrique. Donc la biodiversité revient vraiment, pas en galop, mais elle a sa place vraiment aujourd'hui au Tchad.
Priscilla Dubos, comment ont évolué les recherches en matière de biodiversité ? Est-ce qu'on est toujours sur des inventaires actuellement ? Quels sont les grands thèmes abordés ?
Merci Romain. Alors, les inventaires, c'est jamais fini. Donc, actuellement, on a Natalia Medina Serrano qui vient de soutenir sa thèse la semaine dernière. Et qui, typiquement, travaillant sur les insectes visiteurs de fleurs, si je ne me trompe pas, je demande confirmation à Doyle, mais c'est ça, a mis au jour une diversité extrêmement importante d'insectes. Donc, c'est jamais fini parce que, finalement, on n'a jamais tout découvert, quoi. Donc, depuis 2011 et le début des travaux réels de l'Observatoire Milieu, la première étape a consisté à établir une lecture claire de la diversité des espèces qui peuplent la Grande Muraille Verte. Donc on a eu énormément de travaux sur les différents arbres, sur les différentes herbacées, sur les caractéristiques du sol, sur les animaux du sol, sur la macrofaune, sur les oiseaux, les insectes, etc. Sur toutes ces espèces qui font système, quoi, finalement, on va dire. Et c'est quelque chose, on va dire, qu'on ne peut pas lâcher en se disant, voilà, c'est terminé, maintenant c'est bon, c'est tout. Pas du tout, au contraire, hein, la diversité est dynamique, certaines espèces disparaissent, d'autres sont découvertes. Et je pense que le professeur Diatta ne peut pas dire le contraire parce qu'il est vraiment sur ces thématiques de recherche également. Donc on a vraiment une dynamique qui doit être observée en permanence. Mais aujourd'hui, très clairement, ce qu'on voit, c'est le besoin, je crois, pour les chercheurs d'arriver à travailler eux-mêmes dans une approche systémique. Donc vraiment, d'arriver à interagir avec à la fois les chercheurs les plus proches, donc des sciences de la vie, par exemple, entre zoologues et écologues, et puis, on va dire, de proche en proche, à collaborer aussi avec des chercheurs qui sont sur les sciences humaines et sociales ou qui sont sur les sciences vétérinaires et qui vont à chaque fois amener les recherches un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus loin, jusqu'à ce que finalement... Tout ça arrive à se parler et fasse un tout qui soit lisible pour l'ensemble des personnes qui travaillent dessus. Avec au final, bien sûr, l'objectif que ces connaissances soient portées à la fois aux populations, qui sont en partie les productrices hein, de ces connaissances, et à la fois, bien sûr, à l'agence nationale, notamment au Sénégal, hein, dirigée par le professeur Diatta, et qui pourrait s'appuyer aussi sur ces connaissances pour la pratique de tous les jours, hein, la pratique quotidienne de la Grande Muraille Verte.
Les gens qui sont un petit peu novices sur le problème de la Grande Muraille Verte, je voudrais demander à Sekouna Diatta quels sont pour lui les freins qui s'opposent à un développement harmonieux de la Grande Muraille Verte. C'est une question difficile.
Question très difficile, mais je vais essayer de donner ma réponse. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt de la part des autorités, les nouvelles autorités. Il faut reconnaître que sur le plan de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, nous avons connu un ancien président, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wad, qui portait le projet au début, qui était très engagé et qui avait mis beaucoup de moyens pour ça. Et puis on a senti une baisse d'intensité avec le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que les nouvelles autorités nous ont clairement demandé de leur faire part de nos perspectives de développement parce qu'elles ont envie de donner beaucoup plus de force à l'agence de la Grande Muraille Verte. Donc, il y a cette volonté politique qui manquait un peu d'intensité, qui revient. Il y a la dynamique qu'il faut renforcer, c'est-à-dire le dialogue, les regards croisés entre les connaissances scientifiques. Priscilla l'a dit tout à l'heure, avec une diversité de sciences qui va dialoguer avec les connaissances locales. Et je pense que c'est un tournant extrêmement important que nous voulons, au niveau de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, donner à cette agence-là. Parce que jusque-là, j'ai eu l'impression que les chercheurs et l'agence travaillaient ensemble, mais de façon juxtaposée. Alors que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment les uns et les autres peuvent s'appuyer mutuellement pour qu'on puisse adresser ces questions-là. Parce qu'il ne s'agit pas de reboiser ou de reforester, il s'agit de créer des mutations. Et il faut que différentes sciences puissent appréhender ces mutations-là pour leur donner le vrai sens par rapport aux communautés. Aujourd'hui, ce qui me plaît par rapport aux scientifiques, c'est qu'on note une mutation sociale qui fait que la transmission de la connaissance qui se faisait de génération en génération est en train de s'estomper. Et donc, la science doit pouvoir, à travers des écrits, des enregistrements, différents types de supports, recueillir ces connaissances-là pour les pérenniser pour les générations futures. C'est extrêmement important et vous me permettrez de sortir de la Grande Muraille Verte telle que connue pour descendre un peu plus au sud, pour parler de connaissances, parce que je suis du sud, mais parce que aussi j'observe ce qui se passe au sud et au nord. Lorsque vous allez au sud, particulièrement dans la région d'Ossouille, là-bas, le roi
c'est la zone où on a encore des royaumes. Le roi est responsable de la gestion des ressources naturelles et par conséquent de la gestion des écosystèmes, particulièrement des écosystèmes forestiers et de mangroves. Et figurez-vous, lorsque au nord et un peu au sud dans le département de Bignona, les écosystèmes sont victimes de feux de brousse et de coupes abusives, lorsque vous allez dans le département de Souy, vous n'allez pas observer ça parce que justement, les connaissances et l'organisation sociale sont telles que les gens ont une relation particulière. Tout à l'heure, quand vous parlez d'interaction, les gens, les communautés ont des interactions étroites avec les écosystèmes et qui font qu'elles ont le devoir de les préserver parce qu'elles dépendent de ces écosystèmes-là. Je pense qu'il faudra s'inspirer de tels modèles pour qu'on puisse voir au nord comment est-ce que on peut s'inspirer de ça, on peut s'inspirer de ces communautés-là pour qu'on puisse renverser la tendance. Mais renverser la tendance, c'est différents acteurs. C'est bien les scientifiques, c'est bien des structures étatiques comme nous, mais c'est aussi les autorités, les plus hautes autorités qui vont donner une impulsion et donner les moyens pour pouvoir remplir la mission de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Je vous remercie.
Concernant justement les liens entre la recherche scientifique, le développement et les populations locales, Doyle, en quoi cette biodiversité peut être une source de profit, de richesse et de développement pour les populations locales, sans évidemment dégrader les écosystèmes ?
Plusieurs choses. D'abord, il y a des services fournis directement aux gens. Tous les fruits comestibles, le balanites, l'ensemble des plantes, sont pollinisés par les insectes. S'il n'y avait pas ces insectes, il n'y aurait pas de fruits. Donc il y a des services fournis directement, mais il y a aussi plein de... Je prends un autre service fourni, le forage. Donc souvent, on voit le bétail et la biodiversité en concurrence pour le forage. Mais ce n'est pas forcément une relation négative qui doit y avoir là. Par exemple, si on prend la réserve communautaire de Kweli Alpha, qui a été mentionnée avant, la pratique là, c'est un enclos qui est accepté par la population locale où le bétail est exclu. Mais on permet la saison sèche de couper la biomasse et de l'exporter. Ça, c'est intéressant parce que la végétation herbacée dans cette zone est presque exclusivement annuelle. C'est-à-dire, à la fin de la saison sèche, à peu près toutes les plantes herbacées ont déjà fleuri, ont déjà disséminé leurs graines et sont mortes. Donc la biomasse est en fait une nécromasse. Il a soutenu la biodiversité, il y a plein d'insectes en diapause qui attendent la prochaine saison de pluie. Mais c'est un bon forage pour le bétail. Et les gens apprécient cette réserve naturelle parce que ça fait une réserve de forage dans la saison sèche qui autrement ne serait pas là. Donc il y a moyen comme ça où la biodiversité et les bénéfices économiques peuvent coexister. Donc il faut trouver les synergies entre les pratiques humaines et les nécessités humaines et la biodiversité qui permet tout à coexister. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Très bien. Le Tchad a développé un grand nombre aussi de fermes agricoles communautaires intégrées le long de la Grande Muraille Verte. Justement, quelle place est laissée à la préservation de la biodiversité ? Quel rôle peut avoir ces facies dans la préservation de la biodiversité ?
Merci pour cette belle question, parce que je voudrais parler dans la salle pour renforcer un peu les collègues, mais le temps nous a été imparti. Vous savez que les facies, c'est aussi un renforcement de capacité, un renforcement de la biodiversité. Lorsqu'on essaye de créer un facie, on regarde quand même autour du pâturage, de là où on installe quand même ces facies. Cette façon, entre-temps, des semaines nationales de l'arbre, où il y a la plantation, où des milliers de plantes, des plants qu'on met en terre, où le gouvernement arrive avec des micros, des radios, des télés pour faire une publicité, pour dire qu'on a fait la semaine nationale de l'arbre, a été revue par les hautes autorités de l'État. Entre-temps, on a tendance à planter 1000 plants, vu seulement à la télé. Une année après, quand on vient sur le terrain, on n'a même pas 100 plants. Aujourd'hui, on a changé ce paradigme pour dire que même s'il faut planter 100 plants, il faut les sécuriser. Il faut d'abord la sécurisation de ces plants. Il faut mettre d'abord l'eau qui est cruciale. Il faut clôturer. Il faut un gardien. C'est ça aujourd'hui la politique, non seulement de la Grande Muraille Verte au Tchad, mais même du ministère de l'Environnement. Cette année, en août, on a fait la plantation des arbres. Entre-temps, on faisait 1000 plants, 2000 plants, 3000 plants. C'est sous le haut patronage du président de la République, mais on a essayé de revenir sur 200 plants clôturés avec un gardien à l'université de N'Djamena. À Tokoura, où il y a quand même une forte biodiversité, on a dit que okay, les étudiants sont là à l'université, il faut mettre les plants expérimentaux où les étudiants peuvent en bénéficier. Il faut clôturer, il faut mettre un gardien. Donc l'EFASI, c'est devenu un modèle aujourd'hui au Tchad. Vous savez qu'aujourd'hui, même le PAM, le PNUD ou les ONG qui agissent dans le Sahel ont changé de paradigme par rapport à nos FASI. La ferme agricole de communauté intégrée qui aujourd'hui fixe la population, c'est une ferme intégrée où il y a toutes les espèces agroforestières, on les met dedans. En dehors de ces plans, on fait quand même le maraîchage pour la prise en charge de cette population. Il y a tout dedans. Donc, progressivement, on avance. On prend 5 hectares, on fait un FASI pour prendre en charge cette population parce qu'il y a toujours l'aspect sécuritaire. On fait des conventions avec la communauté. Et c'est cette communauté-là, lui-même, qui en bénéficie et qui garde ce qu'il a. Parce que quand on dit un gardien qui doit venir d'un autre coin, ça crée un autre problème. On demande au chef, comme il l'a dit, ou bien au chef de village, de nous donner un bon gardien qui est payé, qui est pris en charge par la Grande Muraille Verte. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Freddy Jeanne, le rôle des insectes sociaux, en particulier des abeilles, dans un développement des populations locales, un développement économique, quel rôle ça peut avoir dans une zone comme la Grande Muraille Verte?
Alors je dirais que les abeilles peuvent avoir des rôles multiples. Comme on parlait justement de discipline, de mélange de disciplines, les abeilles, donc on va parler de l'abeille à miel, qui est une espèce sociale, peuvent déjà nous inspirer de par leur mode de vie. L'abeille produit aussi de la cire, du miel, de la propolis, et tous ces produits ont des vertus médicinales, sont excellents pour la santé. Avoir des ruches peut aussi être quelque chose de fédérateur, où tout le monde va être curieux, voir comment elle fonctionne. Donc ça peut permettre aussi de tisser du lien autour de l'abeille, de sa compréhension. Ça peut permettre aussi de faire des animations pour les enfants. Et puis tout le monde peut repartir aussi avec quelque chose, potentiellement un petit peu de miel ou des jolis souvenirs dans la tête. Donc pour moi, c'est un modèle biologique qui pourrait être développé. Et déjà en France, dans le cadre d'une association, on a pu mettre en avant les bénéfices justement de l'abeille à ce niveau-là. Donc voilà. Et en plus, ce miel qui est produit, eh bien, s'il est de très bonne qualité, je dirais par exemple s'il est exonéré de pesticides, eh bien, il sera vendu à prix d'or. Parce que du miel sans pesticides, à l'heure actuelle, on est beaucoup à en rechercher. Il y a quelques endroits dans le monde où on peut en trouver, mais on peut les compter. Donc pour moi, il y a vraiment aussi un enjeu. Là, on est dans le cadre de l'abeille à miel, hein, qui ne fait pas forcément partie des pollinisateurs sauvages et qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la biodiversité. Mais il y a vraiment plein de choses à mettre en évidence.
Et une question qui me turlupine un petit peu, quelle est la durée de vie du miel? Est-ce que c'est l'aliment qui garde le plus longtemps sa fraîcheur?
C'est un aliment qui peut se garder très très longtemps.
T'as une idée de nombre d'années?
Oh, je dirais... S'il est bien conservé, c'est-à-dire que si les abeilles l'ont bien préparé, s'il n'y a pas trop d'humidité, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, il peut être collector.
D'accord, ok, merci.
Et juste, du coup, je voulais aussi rebondir pour moi sur cette importance du mélange des disciplines. C'est qu'on voit que quand c'est cloisonné, eh bien, quand on ne travaille pas ensemble, chacun avance en parallèle dans la société et chacun va défendre finalement les intérêts de sa discipline par rapport à ses connaissances. Travailler ensemble, pour moi, c'est le futur pour avoir un développement que j'appellerais éco-responsable et pour qu'on arrive à garder notre place et aussi tout simplement à exister dans le futur.
Ça, c'est de la faute d'Auguste Comte, hein, qui a séparé les disciplines de manière extrêmement rigide. Bon. Monsieur Koudou, une dernière question sur justement les relations entre l'écosystème, la biodiversité et l'élevage au Tchad.
Le Tchad, comme je viens de dire, est un pays d'élevage par excellence. Nous sommes aujourd'hui, nous dépensons déjà la Somalie hein, en termes de chameliers, de bovins et de camélins, toutes espèces confondues. Nous arrivons à plus de 13 millions de têtes qui impactent vraiment sur cette biodiversité. Parce que du moment où je parlais de la pluie cette année, n'eût été la pluie de cette année, il y a une forte concentration de tous ces animaux vers les zones humides, d'où la biodiversité est vraiment impactée. L'abattage aussi des bois, d'où le Tchad a mis en place aujourd'hui une brigade au niveau du ministère de l'Environnement, une brigade faunique et forestière qui réprime carrément la coupe abusive des bois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à reprendre l'écosystème du Tchad. La prairie remonte jusqu'entre-temps quand tu quittes N'Djamena vers le nord. Déjà sur le goudron, tu vois déjà de loin les villages. Je crois qu'on a eu la visite de l'UNCD et l'Agence panafricaine qui ont fait une visite avec moi, avec Sakoudia Zougoulou. Je les ai amenés à plus de 300 km vers le nord. Ils ont dit, mais tiens, on est parti 10 ans du Tchad et puis la forêt est revenue. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette grande exploitation de cette nature par l'élevage et l'agriculture, qui n'est pas contrôlée, et qui ne respecte pas aussi les couloirs de transhumance, comme on l'a dit, impacte négativement, malheureusement, sur la biodiversité.
Pour terminer cette table ronde, avez-vous l'impression, vous, que la préservation de la biodiversité fait encore recette? Est-ce que c'est un argument dans vos pays respectifs ou aujourd'hui pour mobiliser les autorités? Est-ce que c'est vraiment la priorité numéro un, par exemple, de l'agence tchadienne ou de l'agence sénégalaise? Dans l'ordre des priorités, est-ce que la préservation de la biodiversité, c'est l'argument qui va faire avancer la Grande Muraille Verte? Je vous laisse choisir.
Ok, bon, moi, je vais juste vous dire quelque chose qui va parler de la biodiversité. Pardon. Vous savez que la biodiversité au Tchad, comme on l'a dit, elle est très riche et variée. Nous avons plus de 4318 espèces de végétaux qui est supérieure à la superficie de la Grande Muraille Verte. Nous avons 71 espèces endémiques, 727 espèces d'animaux et 39 millions d'hectares de terres cultivables. D'où la biodiversité, elle est importante pour notre pays, pour avancer. Et il va falloir que les plus hautes autorités, quand on parle des plus hautes autorités, ne suffit pas. Il va falloir que tous les citoyens puissent quand même s'en approprier vraiment de la bonté de cette biodiversité pour qu'on puisse avancer. Parce qu'elle est très importante pour nous.
C'est Kouna Diatta, vous avez un mot à rajouter?
Oui, vous me permettrez de mettre cela en relation avec les FACI dont il a parlé tout à l'heure, la relation entre FACI et biodiversité. Parce qu'il faut reconnaître que dans ces zones-là, les conditions de vie sont difficiles. Les conditions de vie étant difficiles, il faut aider les populations à avoir une résilience qui est en cohérence avec une résilience des écosystèmes. Et donc, pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, il faut qu'il y ait d'autres sources de revenus pour ces communautés-là. Et c'est ça qui justifie en particulier la mise en place de ces FACI. Au Sénégal, nous avons ambition de démultiplier ces facilités-là, mais également par rapport à la préservation de la biodiversité. Il y a 2 mois, le ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, qui est un écologue et qui est un spécialiste de biodiversité, a visité avec nous la réserve communautaire de Koeli Alpha. Et il nous a été demandé de démultiplier ce modèle-là tout au long du tracé de la Grande Muraille Verte, de telle sorte qu'on puisse créer un corridor qui va depuis l'ouest de la réserve de Gombel jusqu'au parc Nyokolokoba. Et c'est ça qui va redonner une autre dimension à cet aspect de la Grande Muraille Verte. Et c'est ça qui justifie un peu le regain d'intérêt qu'ont les autorités par rapport à cela. Une semaine avant la semaine de la Grande Muraille Verte, nous avons validé un projet de mise à jour, la révision périodique de la réserve de biosphère du Ferlo. Le document doit être envoyé à l'UNESCO avant le 30 et les autorités déjà on a le financement pour pouvoir remettre à jour cette réserve de biosphère. Vous avez certainement aussi appris le fait que le parc de Nyokolokoba a été enlevé de la liste rouge parce que justement, il y avait des pratiques qui n'étaient pas en cohérence avec la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, effectivement, il y a une nouvelle orientation des nouvelles autorités par rapport à cette préservation de la biodiversité. Dans les mois à venir, il sera organisé un conseil interministériel sur la lutte contre la désertification, la coupe de bois et le trafic de bois. Parce que vous le savez, les seuls massifs forestiers qui restent encore au Sénégal se trouvent au sud. Malheureusement, nous avons un fort trafic de ce bois-là et les autorités, justement, veulent arrêter cela. Et il a été demandé à la direction des eaux et forêts et à l'Agence sénégalaise de la reforestation, non seulement de reforester, mais aussi de faire de telle sorte que ces pratiques-là puissent cesser. Et ces pratiques ne peuvent cesser qu'avec la complicité des communautés locales. Je vous remercie.
Merci à toutes et à tous pour vos éclairages respectifs. Ce podcast est maintenant terminé. Merci à mes auditeurs pour votre écoute. Merci Gilles.